Journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin le pass sanitaire. Avec la troisième dose de vaccin, ça passe, sans, ça casse. Plusieurs centaines de milliers de passes pourraient donc être désactivés dès aujourd'hui. On va l'entendre, les Français ont du mal à suivre.
Les autres titres, et si l'épidémie commençait à marquer le pas, on note un ralentissement des passages aux urgences et des hospitalisations en Île-de-France et en Corse. L'alerte des banques alimentaires, elle manque de lait alors que les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux. Djokovic toujours out de l'Open d'Australie pour l'instant. Son visa supprimé, le numéro 1 mondial du tennis est reparti en centre de rétention. Raphaël Nadal s'énerve. Le tournoi est bien plus important que n'importe quel joueur, dit-il.
Et puis à partir de 8h20, avec nos trois invités, on va célébrer les 400 ans de Molière avec Éric Ruff, l'administrateur général de la Comédie Française, Georges Forestier, historien de la littérature, notamment du XVIIe siècle, et Philippe Collin, qui a produit une série de podcasts Molière, le chien et le loup.
France Inter.
Le pass sanitaire, nouvelle formule dès aujourd'hui. Les personnes de plus de 18 ans qui n'auront pas fait leur rappel 7 mois après leur deuxième dose verront leur pass désactivé en théorie. 560 000 personnes sont potentiellement concernées. C'était déjà le cas depuis le 15 décembre pour les plus de 65 ans, mais beaucoup s'y perdent encore. Reportage d'Élie Abergel de France Bleu Paris.
Certains, comme Karine, ignoraient totalement cette mesure.
J'étais absolument pas au courant. On a un peu du mal à suivre avec toutes ces dates, ça change tout le temps.
C'est le cas aussi de Ryan, 29 ans. Ce Parisien se demande bien si son pass est encore valable aujourd'hui.
Moi, j'ai actuellement fait une dose, puisque j'ai contracté le Covid en mai 2021. L'injection, je l'ai fait 6 mois après, en octobre. Je sais pas du tout si ça restera valide.
La réponse est oui, car sa dernière injection de vaccin remonte à moins de 7 mois. Il a donc encore quelques semaines devant lui pour faire sa dose de rappel. En revanche, Colombe, cette habitante des Hauts-de-Seine, réalise qu'elle n'a plus que quelques jours.
Je me suis fait vacciner le 29 juin. Il me reste quoi, 2 semaines? Je suis un peu surprise. C'est pas une très bonne nouvelle pour moi, du coup. Si je fais pas la troisième dose, mon pass sanitaire est mort.
Et il y a une seule exception à cette dose de rappel, c'est si vous avez été contaminé par le coronavirus et que vous êtes guéri. Alors, votre pass sanitaire reste valable 6 mois à partir du jour de votre infection.
Et l'assurance maladie promet une tolérance de 7 jours supplémentaires après la date de fin de validité du pass sanitaire. Quant au pass vaccinal, il poursuit son chemin à l'Assemblée. Le texte a été adopté cette nuit en deuxième lecture. Au bout d'une nuit de débat, il repart au Sénat légèrement modifié. Il ne s'appliquerait plus, par exemple, aux adolescents de 12 à 16 ans. Le marathon devrait s'achever demain après-midi avec un ultime vote des députés. Le Covid continue de désorganiser l'enseignement. 14 380 classes étaient fermées hier, d'après le dernier débat. Comptes. Un record depuis le début de la pandémie il y a presque 2 ans. Mais il y a une lueur d'espoir. Le nombre de personnes hospitalisées en soins critiques, 3900, est en légère baisse depuis 2 jours. Et il y a des signaux encourageants en région parisienne et en Île-de-France, Boris Allier.
Moins de passages aux urgences, des appels SAMU orientés à la baisse et un ralentissement des hospitalisations. Voilà les nouvelles encourageantes que le directeur des hôpitaux de Paris partage avec les soignants dans un mail interne. La réunion de crise à l'AP-HP a même été plus courte que d'habitude, souligne Martin Hirsch. Si l'on regarde les courbes, on observe un début de ralentissement des nouveaux cas en Île-de-France et en Corse. Ces données correspondent aux projections de l'Institut Pasteur qui prévoyait un pic des contaminations à partir de la mi-janvier. Mais on le sait, il y a un décalage avec les admissions dans les hôpitaux et là, le pic devrait être atteint fin janvier, début février au niveau national avec entre 2500 et 5200 nouvelles hospitalisations chaque jour selon le scénario le plus optimiste.
À cela s'ajoute l'arrivée d'un nouveau vaccin américain, le Novavax. Il a reçu le feu vert des autorités sanitaires hier. Il peut être une alternative utile pour tous ceux qui se méfient des vaccins à ARN messager puisqu'il utilise une technologie plus classique.
Vous avez dit Novavax. Lui, on le surnomme Novax. Novak Djokovic, ancien anti-vaccin notoire.
Oui.
Il ne sait toujours pas s'il pourra participer à l'Open d'Australie dès lundi.
Le feuilleton tourne à la saga. Ça dure depuis 11 jours et Raphaël Nadal s'impatiente. L'Open d'Australie est bien plus important que n'importe quel joueur, claque le joueur espagnol qui en a assez que l'affaire Djoko occulte l'intérêt pour le tournoi. Le numéro 1 mondial, privé une nouvelle fois de visa, est reparti en centre de rétention à Sydney. Grégory Pless.
Son visa ayant été annulé, la présence de Novak Djokovic à Melbourne est illégitime, d'après les autorités australiennes. Elles viennent, pour la deuxième fois en seulement 10 jours, de le placer dans un centre de rétention. Mais ça n'a en fait rien d'étonnant, puisqu'on a appris aujourd'hui que le motif qui a poussé le ministre de l'Immigration à annuler une deuxième fois le visa du joueur, c'est la crainte que sa présence en Australie y attise le sentiment anti-vax. Que ce sentiment anti-vax se traduise par des manifestations qui elles-mêmes créeraient alors un risque élevé de transmission du virus. Une approche du problème qualifiée d'irrationnelle par les avocats de Novak Djokovic, ils tenteront de revenir sur l'annulation du visa de leur client lors d'une audience décisive prévue demain matin, soit 24 heures seulement avant l'ouverture de l'Open d'Australie. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
En politique, elle a choisi la Croix-Rousse, symbole de la condition ouvrière à Lyon, pour annoncer sa candidature. Christiane Taubira se dévoilera en fin de matinée lors d'un rassemblement militant pour l'Union de la Gauche. Elle participera à la primaire citoyenne alors que la gauche est plus divisée que jamais. Marine Le Pen devrait mettre en ligne un message vidéo à la mi-journée tourné devant le Louvre, là où Emmanuel Macron avait célébré sa victoire en 2017, histoire d'installer un peu plus le match avec le président. Les banques alimentaires alertent, elles manquent de lait. Les dons de producteurs ont diminué l'année dernière à cause de l'augmentation du prix des matières premières. Or, au même moment, le nombre de bénéficiaires a explosé, plus 12% depuis le début de la pandémie. Ça représente plus de 2 millions de personnes, dont 500 000 enfants. Reportage à Bain-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine, Julien Morcelli.
Derrière la caisse de son épicerie solidaire près de Rennes, Richard Mertz scanne les briques de lait vendues 10 centimes.
Ça part bien puisque c'est une denrée principale. C'est pas le produit phare parce que souvent c'est la viande, mais le lait arrive en deuxième position avec tous les produits laitiers. Les gens en prennent pour le café au lait, pour la cuisine et surtout pour les enfants, quoi.
Si Richard Mertz les vend 10 fois moins cher qu'en grande surface, c'est grâce aux dons des producteurs à la banque alimentaire.
Donc je donne 1500 litres par an.
Frédéric Simoneau est à la tête d'une exploitation en Ille-et-Vilaine. 90 vaches laitières.
Alors ça varie en fonction du volume contractuel que je fournis à la laiterie. S'il y a un dépassement, ce dépassement est donné à la laiterie qui le transforme et fournit les produits à la banque alimentaire.
Sauf qu'en ce moment, les fermiers ont de moins en moins de lait en stock une fois les commandes honorées.
Le coût du lait a augmenté cette année, donc les éleveurs font très attention à leur volume contractuel. Il y aura sans doute peu de dépassements cette année.
D'où l'appel à l'aide de Roland Courtat, coordinateur des dons de lait pour les banques alimentaires.
L'an dernier, nous avions obtenu 1,5 million de litres de la part des producteurs, un volume assez faible par rapport à d'autres années. Et par rapport à actuellement, en plus, l'augmentation des besoins du nombre de bénéficiaires. Si on pouvait doubler le volume, ça permettrait de faire face.
Avec cette augmentation, les bénéficiaires pourraient recevoir 14 litres de lait par an au lieu de 7.
Il n'était pas une diva et affichait 37,2 le matin. Le réalisateur Jean-Jacques Benex, auteur de ses deux films cultes des années 80, est mort hier à l'âge de 75 ans. Perfectionniste, éruptif, incompris, son cinéma était critiqué par les puristes comme étant trop coloré, pop et dans le style de la pub. Des critiques injustifiées pour l'ancien directeur de casting Dominique Besnéa.
Il avait une folie, il avait une folie à l'image. Et quand on disait qu'il faisait une esthétique de pub, c'est absolument faux. Dans 37 degrés le matin, on fait pas venir 4 millions de gens. S'il n'y a pas tout d'un coup une espèce de connivence avec le public, les gens se sont retrouvés dans ces films. Alors moi, je dirais, il y a deux films cultes. Il y a Diva. Alors on en parle moins parce qu'on parle de 37 degrés le matin, mais Diva, ça a très très bien marché. Et 2 millions, je crois. Mais même son dernier film, Mortel Transfert, je trouve qu'il avait pleine qualité, mais tout d'un coup, ça avait la critique quand ils décident, avant d'aller voir le film qu'ils ne vont pas l'aimer, c'est un mal terrible. Mais Jean-Jacques, il était curieux, il était très profond, très cultivé, et en même temps, il était populaire, il adorait les gens, il adorait manger, et en même temps, il avait des moments sombres. Le matin, il fallait pas trop. Moi, j'avais des rendez-vous le matin quand je faisais du casting. Ça n'allait jamais, un peu comme Piala. Et puis, au cours de la journée, il s'éveillait et il était devenu. Moi, j'ai énormément de peine parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Franchement, c'est dur.
Dominique Besnéa, très ému chez nos confrères de France Info. Richard Boringer, découvert dans Diva, salue celui qui a su donner sa chance à toute une génération d'acteurs.
Et rendez-vous dans l'émission de Laurent Delmas à partir de 10h avec Christine Masson pour un nouvel hommage à Jean-Jacques Benex. C'était le journal de Christelle Rebière. Le temps de ce samedi.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski, le soleil, ce sera pour la moitié sud aujourd'hui.
Ah, effectivement, le bleu va rapidement s'imposer au sud de la Loire, également du Beaujolais aux Alpes jusqu'à la Méditerranée, mais plus au nord, les trouées seront beaucoup plus aléatoires, et puis sur l'ouest de la Bretagne, l'ambiance va devenir quelque peu maussade en soirée. Cet après-midi, il est prévu 7 à 10 degrés sur l'arc atlantique, 10 à 14 autour de la Méditerranée, mais souvent à peine 3 à 6 degrés sur les autres régions. À noter ce matin des brouillards givrants assez fréquents du nord de la Loire au Grand Est, également près de la Saône et de la Garonne, dans des températures positives sur la Corse et sur le Finistère, mais négatives partout ailleurs, généralement entre moins 1, moins 4 en général. Il fait moins 5 dans le sud-ouest, moins 6 sur le centre et moins 8 degrés à Saint-Étienne.
Jean-Michel Golinski, Météo France.